Deux invités nous accompagnent ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est à nos côtés, gérante et directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa.
Bonsoir Grégoire.
Damien Charlet également avec nous. Bonsoir Damien.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là, ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat de Mandarin Gestion. C'est la question que je voulais mettre à la une. Léa, je me tourne vers vous. Est-ce que le secteur de la défense est un secteur durable au sens ESG du terme? C'est un bon jour pour poser cette question puisque Thales, notre fleuron national de défense est en tête du CAC, bat un nouveau record historique en bourse après un exercice 2023 record sur le plan opérationnel. C'est également aujourd'hui que Bruxelles, la Commission européenne, a présenté ses idées ou son projet de stratégie industrielle de défense pour l'Europe. Alors évidemment, comme toute proposition de la Commission, il y a énormément de choses. Des engagements, des promesses, sans doute des sujets qui deviendront aussi des sujets législatifs à un moment en Europe. Je regardais un petit peu ce qui concerne le fléchage de l'épargne, pour dire les choses très simplement. Il y a l'idée quand même dans ce projet de la Commission européenne qu'on pourra intégrer demain des investissements en dépenses militaires, en projets militaires ou en projets de défense, dans ce qu'on appelle la case des investissements durables. Mmh. Ces investissements qui cochent les bons critères et qui permettent d'apporter une dimension de durabilité à nos modèles économiques.
Oui. Bah, déjà, pour répondre à ce point-là, c'est un des arguments qui avait été évoqué un peu facilement à partir de 2022, puisque le contexte, c'est celui-là. C'est quand même cette crise en Ukraine qui fait réveiller les consciences. Que peut-être que l'armement et la défense étaient un élément assez naturel dans le développement durable, parce que se défendre, à commencer par là, c'est important pour une nation et pour la société.
Bon. La défense a un rôle social.
Voilà, on pourrait le dire comme ça, de manière assez simple, oui, ne serait-ce que dissuasif pour ceux qui souhaitaient trouver le meilleur argument. Je pense que le sujet, il est un peu plus large que ça, en réalité, dans le secteur de l'armement et de la défense, parce que c'est un secteur qu'on assimile souvent à l'armement, la défense, en témoigne d'ailleurs Thales et ses très bons résultats. Il y a beaucoup d'autres activités, je pense par exemple à la cybersécurité, contrôle aux frontières, etc., qui englobent aussi des éléments de sécurité nationale un peu plus larges que les simples armes qu'on peut...
La production d'armes.
Voilà, exactement.
Oui, oui.
Et donc, d'ailleurs, à dissocier très fortement de tout ce qui est armement controversé, qui là n'est pas du tout mis sur la table de la Commission européenne, et c'est pas du tout le sujet. Ce qui est intéressant, je pense que là, ça permet de sortir une fois plus de ce débat dogmatique de l'ISR. Est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Le fait de mettre la défense dans un cadre strict où il va y avoir une évaluation claire de ce que peuvent être des armes ou des systèmes de sécurité qui rentrent dans le cadre du développement durable, bah c'est une vraie question qu'il faut se poser. Et dès lors, on sortira de ce sujet philosophique quasiment éthique, puisque c'est le règlement, la réglementation qui nous le dira. Et je pense qu'on a eu le même sujet avec le nucléaire, on a eu le même sujet avec le gaz, on l'a eu avec des tas de secteurs. Pour moi, c'est essentiel. Et juste une chose là-dessus, c'est un cadre, si on parle de taxonomie, alors est-ce que ça ira jusqu'à la taxonomie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça allait jusqu'à la taxonomie, ça veut dire que dans ce secteur-là, il y a des choses intéressantes à regarder, parce qu'en fait, la question, c'est la manière de produire, qu'est-ce qu'on produit, la traçabilité qu'on donne à tous ces, finalement, produits qui sont quand même dangereux et qui peuvent passer d'une main à l'autre, et c'est des sujets qui sont déjà largement abordés par les acteurs sérieux. Mmh. Donc, quelque part, on met de côté le sujet sectoriel, on réintroduit le sujet opérationnel pur. Et donc, c'est pas à moi d'en décider pour répondre, en tout cas, à cette question. Est-ce que c'est durable, pas durable? Je pense qu'en tout cas, s'il y a un cadre beaucoup plus facile pour analyser, eh ben, ça va nous permettre de regarder les choses de manière plus objective, comme tout le reste de la taxonomie. Je rappelle qu'il y a plein de secteurs, les cimentiers, etc. Donc, ce n'est pas que les beaux secteurs verts de la côte.
La défense a un rôle social, ou est-ce qu'on a envie d'intégrer le secteur de la défense dans une forme d'ESG, parce que c'est un secteur qui a doublé en bourse depuis 2 ans, Léa? Thalès a fait x2, évidemment, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je pense que les deux, en réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience qu'il y avait un secteur entier dont on s'était écarté parce que ça paraissait éthiquement pas acceptable et qui a eu des très bonnes performance, et que la réalité aussi de nos marchés...
Tant que ça ne payait pas en bourse, on pouvait se dire c'est éthiquement pas responsable, on n'en veut pas, etc.
Exactement.
Quand ça commence à payer en bourse...
Bien sûr. Et ça, ça a éveillé les consciences. Mais je pense que l'autre partie, elle est plus intéressante. C'est ce contexte géopolitique extrêmement tendu, et pas que la guerre en Ukraine, qui rappelle quand même que le financement de l'armement et de la défense par la BEI, par exemple, n'est pas faisable. Et donc ça...
Ça fait partie de ce que voudrait déverrouiller Bruxelles, effectivement, absolument, dans ce projet de stratégie industrielle pour la défense européenne.
C'est le plus gros bilan bancaire, hein, quand même, la BEI. Et c'est le seul qui n'adresse pas directement le sujet. Donc, proposer finalement d'une réflexion qui ne pourra pas se prendre à la dernière minute si demain il y a un problème sur les 10-15 prochaines années, comment on refinance toute cette industrie-là, ça ne me semble pas aberrant dans le contexte actuel.
Bon. Et puis alors après, il y a l'idée, évidemment, toujours un peu grallesque, de nouvelles émissions de dette commune, hein, alors oui, poussées par certains pays, refusées par d'autres, je vous fais pas le tableau. Mais on a eu des green bonds, on a eu des social bonds, on aura peut-être des security ou des defense bonds demain pour l'Europe.
Ça semble être l'idée. En tout cas, moi, je trouve que là, la différence, c'est qu'on est dans le prospectif et pas dans le réactif par rapport au précédent. Ça veut dire que là, il y a vraiment une réflexion sur que doit être finalement la défense européenne dans 10 ans. Et est-ce que l'Europe doit contribuer, financer et inciter éventuellement à investir dans ces entreprises-là.
Du prospectif qui vient aussi en réaction quand même aux événements qu'on vit depuis 2 ans, diront certains, Léa, à l'approche d'une élection américaine qui pourrait voir à nouveau peut-être un Donald Trump venir un peu secouer l'Europe sur des sujets notamment de financement de sa propre défense et de sa propre sécurité.
Tout à fait.
Damien, est-ce que c'est le signe d'un ESG qui est capable de s'adapter quand la donne change ?
Oui et non. C'est-à-dire que je trouve que c'est un peu caricatural de dire qu'on commence à regarder certains secteurs parce qu'ils marchent bien en bourse. Moi, je dirais plutôt que, au départ, il y a certains secteurs qui ont été mis à l'écart sans vraiment se poser de questions et sans approfondir vraiment les sujets. C'est vrai pour la défense, c'est vrai pour le pétrole, parce qu'il n'y a quand même pas si longtemps que ça, le pétrole c'était considéré comme persona non grata. Et puis finalement, effectivement, quand le secteur s'est mis à monter en bourse, et puis qu'on s'est aperçu quand même malgré tout qu'on avait encore besoin de pétrole, et puis qu'il n'y avait pas forcément que des mauvaises choses chez les producteurs de pétrole, qu'ils investissaient.
C'était aussi des énergéticiens au sens large, pour certains d'entre eux.
Oui, et puis ils évoluent, et puis aussi, il faut quand même avoir la réflexion de... Où vont certains secteurs ? Est-ce qu'il faut les encourager à aller dans une direction ? Et si on veut les encourager, on ne va pas les sanctionner tout de suite. Donc c'était vrai pour le pétrole. Et je pense que sur la défense, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on a eu des réflexes faciles qui étaient de dire la défense ou l'armement, c'est pas bien. Mais effectivement, il y a une différence. Alors on ne va pas faire de la philosophie, mais il y a une différence entre de la défense et de l'armement. Alors effectivement, le fléchage, par exemple, de la production est très important. Et aujourd'hui, chez Thales, je crois que c'est un de leurs points forts, c'est-à-dire qu'ils sont capables, de manière assez fine, de dire où vont leurs productions. Et d'ailleurs, si on...
C'est quoi, c'est le scope 3 de Thales, d'une certaine manière ? À quoi c'est... Non, mais au final, qui utilise les armes et les produits qui sont fabriqués par Thales, quoi.
Je ne sais pas s'il peut y avoir des dérapages par rapport à ça, mais en tout cas, ils font l'effort d'essayer, en tout cas, de tracer leur production. Et si on reste 2 secondes sur Thales, globalement, au sein de leur secteur, ils sont quand même bien notés. Alors, je veux dire, ils sont, sur la plupart des critères, meilleurs que les autres. Peut-être un peu moins sur la gouvernance et les problématiques de séparation des pouvoirs entre le président et le directeur général. Mais
ça veut dire qu'une stratégie qui intègre cette dimension peut se permettre de justifier la présence de Thales dans un portefeuille, par exemple, aujourd'hui ?
Oui.
Ouais.
Oui.
Non,
mais je... Très bien. Après, vous savez, par exemple... Nous, dans notre activité, où il y a des fonds ouverts, mais il y a aussi des fonds sur mesure ou des mandats pour des clients qui sont assez différents les uns des autres, il y en a qui vont accepter qu'on mette du Thales, il y en a qui ne vont pas l'accepter.
C'est vrai. Questions que vous leur posez directement aujourd'hui. Enfin, ça fait partie des questionnaires, des questions qui sont posées aujourd'hui aux clients quand on design un mandat pour lui.
Évidemment. Alors, il y a la défense. Alors, en l'occurrence, par exemple, si on prend les investisseurs les plus stricts en matière d'ESG type directive sociale de l'Église, évidemment, la défense, ça passe pas. Mais il y a plein d'autres secteurs qui passent pas non plus. Il y a beaucoup de sociétés pharmaceutiques qui passent pas. Alors que pourtant, la pharmacie, dans un contexte ESG...
Ça peut avoir son utilité.
Son utilité. Après, il y a une façon différente d'aborder les choses sur les essais ou la gestion du génome et des choses comme ça, où chacun a ses critères. Donc, On a des clients qui ne voudront pas voir de défense dans leur portefeuille, mais je pense qu'on a aussi énormément de clients qui ont le réflexe du citoyen lambda qui dire les risques augmentent, j'ai envie d'être protégé. Donc, dans ce contexte-là, à partir du moment où on peut un peu quand même analyser d'un point de vue ESG les sociétés d'armement, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas être dans un portefeuille.
En termes presque de marketing, Léa, on a beaucoup communiqué sur la finance durable. Il y a maintenant la finance de transition qui est en train de s'installer. Alors, derrière le marketing, quelle est un peu la réalité de ce shift qui donne une vision un peu différente des choses et peut-être un peu plus dynamique avec l'idée d'un accompagnement dans une phase de transition.
Oui, tout à fait. Ah ben alors ça, je pense que c'est très important et moi, c'est ma conviction depuis des années, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir vraiment des cases pour des ISR avec des typologies différentes et bien expliqué. Le premier et le plus strict étant celui évoqué à l'instant, c'est-à-dire quelque chose où il y a vraiment des restrictions sur des secteurs, où il y a toujours un petit truc qui peut poser problème, et donc là, on va sur quelque chose de très pur, on n'est pas dans la transition, et on est dans l'éthique quelque part.
C'est ça.
C'est très mandat. C'est vraiment très dédié à un certain type de clientèle. Après, il va y avoir ceux qui vont aller chercher les leaders d'aujourd'hui. Et moi, j'insiste, il ne faut pas les mettre de côté. Les leaders d'aujourd'hui, je vais prendre le cas de Schneider Electric, si Schneider est leader aujourd'hui, c'est parce qui se sont posé les bonnes questions il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ça devient une société de croissance, en forte croissance, une des meilleures performances du CAC l'année dernière, parce qu'ils ont compris il y a 20 ans que l'électrification, que l'efficacité industrielle serait au cœur de leur demande dans 20 ans. Et ils sont au rendez-vous et ils ont un pricing power. Et c'est une réussite financière exceptionnelle. Donc ces leaders-là, il ne faut pas les oublier, il y en a quand même des très très bons. Et ce n'est pas que cocher des cases, des thématiques, c'est vraiment beaucoup plus large que ça. Et la transition, c'est véritablement aller non pas sur le chiffre d'affaires réalisé aujourd'hui, mais sur les CAPEX, donc les investissements, voire la recherche et développement, qui est mise à profit. On parlait justement du secteur pétrole. Pétrole, aujourd'hui, c'est entre 15-16% de CAPEX chaque année chez Total, Eni, en destination justement des énergies renouvelables.
Et ça, pour certains investisseurs, cette part du CAPEX dédiée à la transition énergétique en l'occurrence, ça peut justifier de porter une position comme celle-là en portefeuille.
Tout à fait. Et c'est une des discussions d'ailleurs de cette fameuse réglementation SFDR qui est déjà en revue, avec l'idée d'identifier la taxonomie sur le chiffre d'affaires aujourd'hui et la taxonomie sur les investissements pour demain. Et de mettre les deux dans deux catégories différentes de fonds, parce que les deux mélangés, ça crée la confusion et on ne sait plus trop dans la philosophie de gestion si c'est de l'opportunisme instantané ou si c'est une vraie conviction. Et donc de pouvoir donner encore une fois quelque chose de clair au client final qui ne s'y retrouve pas. Et donc, il y a de la place, effectivement, pour ces acteurs-là. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs. Énormément de secteurs sont concernés par ces investissements.
Damien.
Sur ce sujet de la taxonomie, par exemple, si on regarde Thalès, si on revient sur Thalès, si on regardait que le chiffre d'affaires, il serait toujours à zéro. En taxonomie verte. Après, si on parle d'évolution vers la taxonomie sociale.
Oui.
Mais en taxonomie verte, en chiffre d'affaires, ils sont toujours à zéro. Ouais. Alors qu'en en CAPEX, là, pour le coup, ils commencent à être un petit peu mieux notés.
Ouais. Donc, effectivement, de manière de regarder les choses, hein.
Ouais.
Effectivement. Hein. Ouais. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la question de la défense. Est-ce que la défense a un rôle social et est-ce qu'elle mérite d'être mieux inclue peut-être dans les stratégies ESG? C'était le sujet du jour avec Thalès en vedette, bien sûr, et la présentation par la Commission européenne de cette stratégie industrielle pour une défense européenne. Si on regarde les marchés un peu plus globalement, Damien, on sort de 4 mois consécutifs de hausse, hein, novembre, décembre, qui ont été des moments de rallye importants pour les marchés, janvier, février, qui ont été des mois de records boursiers pour les grands indices actions des marchés développés notamment. Quel état des lieux est-ce que vous dressez à ce stade? Sachant que ce rallye actions s'est accompagné d'une petite correction quand même sur les marchés obligataires depuis le début de l'année, avec l'idée que on n'aurait pas autant de baisses de taux de la part de la Fed et des autres banques centrales que ce qu'on pouvait imaginer en fin d'année dernière.
Oui, alors... La question que nous posent la plupart des investisseurs, c'est toujours... ou les remarques qu'ils nous font plutôt que les questions, c'est cher. Bon, je pense que la première réponse à ça, c'est que globalement... alors évidemment, c'est une généralité, parce qu'on va parler des indices, et qu'au sein des indices, il y a plein de situations différentes, mais globalement, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est pas monstrueux. Alors effectivement, depuis 2-3 mois, la hausse des marchés s'est faite surtout par revalorisation des PE, hein, parce que les révisions de bénéfices ont été plutôt à la baisse. Hein, donc le rallye de ces trois derniers mois, c'est de l'augmentation de valeur. Donc ça, c'est pas tellement durable. Dans un deuxième temps, pour que les bourses continuent à monter, il va falloir que les séquences de bénéfices s'améliorent. Et si on regarde juste les prévisions pour 2024, bon, elles ont été révisées à la baisse, mais elles sont quand même pas encore complètement nulles. C'est-à-dire qu'en Europe, on attend 4% de croissance. Aux États-Unis, on attend plutôt 10. Ouais. Donc, c'est pas des attentes de croissance de bénéfices, de crise ou de récession. Hein, donc, ça, c'est le premier élément qui pourrait éventuellement limiter un peu la hausse des indices lors des prochains mois. Après, évidemment, le sujet des taux d'intérêt, il est très important. Alors, effectivement, bon, les derniers mois, on a plutôt eu tendance à enlever des baisses de taux d'intérêt. Bon, je pense qu'on en avait parlé.
Parce qu'on en avait trop mis.
Oui,
c'est ça. Oui, bon.
On en avait trop mis et on se posait même la question
parfois
de.
Parfois, c'est aussi simple que ça.
On rencontrait aucun investisseur qui, enfin, en tout cas en Europe, on rencontrait aucun investisseur ou aucun économiste qui vous disait je prévois 6 ou 7 baisses de taux d'intérêt. Donc, on se demandait un peu d'où ce consensus venait. Donc là, on revient à 3-4, ce qui paraît plutôt raisonnable. Alors, ça paraît assez raisonnable aux États-Unis où la croissance reste forte. En Europe, vu la situation un peu plus difficile, 3-4 baisses de taux, potentiellement, c'est le minimum. Surtout qu'en Europe, a priori aussi, les indicateurs avancés en ce qui concerne l'inflation, ils sont plutôt bien orientés. Donc, le risque inflationniste en Europe, il nous paraît beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Bon, alors, après, savoir si l'Europe sera capable de baisser les taux avant et plus que les Américains, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'élément... qui aura le plus gros impact sur les bourses dans les prochains mois. Alors, on a dit que c'était les résultats des entreprises, mais les résultats des entreprises, ils seront dépendants des baisses de taux. C'est-à-dire que les baisses de taux, ils permettront d'augmenter les volumes, enfin, et d'augmenter l'activité économique sur potentiellement, je sais, peut-être pas la fin d'année, parce que si on commence à baisser les taux en juillet, ça aura un impact un peu plus tardivement, mais en tout cas, ça permettra de réviser à la hausse.
En termes de perspective, c'est ce qui pourra redonner un peu de dynamique au momentum bénéficiaire des entreprises. Quoi.
Oui, voilà. Ouais. Donc, en fait, pour résumer, la hausse de ces derniers mois, elle n'a pas amené les indices à des niveaux exorbitants. On est à 13,5 en Europe, ce n'est pas scandaleux. On est un peu plus cher aux États-Unis, on est plutôt haute fourchette. Mais si on regarde les Magnificent Seven, où tout le monde a l'impression que la hausse est complètement...
Mais pour le dire, beaucoup ont l'impression qu'on est en 99-2000, quoi.
Ben, la réalité, c'est que depuis un an, le multiple de ces valeurs-là, il n'a pas bougé.
Bon, hein? Voilà.
Donc, voilà.
Donc, on est plus en 94, quoi. Si on prend la référence des années 90, on n'est pas encore en 99. Alors, on est peut-être quelques années avant.
C'est ce que tout le monde espère. Parce que 94, 95, c'est la dernière fois qu'il y a eu... qui a eu des hausses de taux suivies d'un soft landing.
C'est
donc c'est le scénario rose. Maintenant, comme on l'a toujours dit, c'est un scénario qui est très, très, très étroit. Pour l'instant, qui n'est pas vraiment mis en doute par les chiffres. Mais
non, à tel point que certains parlent même de no landing dans les scénarios alternatifs aujourd'hui. Hein.
Oui, alors moi, c'est pas encore notre scénario. J'ai bien dit, pas encore. C'est pas notre scénario.
Non, mais...
parce que historiquement, quand même, ça a été quand même plus fréquent qu'il y ait des gros ralentissements économiques à la suite de hausses de taux que l'inverse. Donc on est toujours un peu sur cette idée-là. Maintenant, ralentissement, mais sans catastrophe, parce que le marché de l'emploi est bon, parce que les banques centrales peuvent baisser les taux. Enfin, il y a plein de forces de rappel. Les entreprises sont plutôt en bonne santé financière. Quand on va baisser les taux, elles vont pouvoir réinvestir. Enfin, disons que le scénario, on va dire, à court moyen terme sur les actions, c'est peut-être une petite pause. Et puis peut-être qu'après, on reparlera des obligues. Mais à notre avis, les obligues, ça reste toujours une très bonne alternative. Et en particulier... ce qui n'était pas ce qu'on disait encore il y a 2 mois, les obligues d'État.
Ouais.
Parce que là, on était plutôt sur les obligues à haut rendement jusqu'à présent.
Ouais.
Et on commence à vendre les obligues à haut rendement parce que les spreads sont vraiment écrasés énormément et maintenant sont à des niveaux très bas. Alors que si on anticipe plutôt des baisses de taux, on aura peut-être un peu moins de rendement sur de l'État, mais en revanche, on aura plus de levier sur la baisse de taux si on prend un peu de duration.
Ouais.
Donc, l'arbitrage du moment pour nous, c'est plutôt enlever du crédit et rajouter du taux d'intérêt et de la duration.
Ah, très intéressant.
Léa, moi je suis toujours fasciné de voir effectivement comment le sentiment peut passer d'un extrême à l'autre. Hein. Je veux dire, il y a un an, début 23, c'était la récession et le hard landing assuré pour l'économie américaine. Ça a été tout le contre-pied, enfin toute l'histoire du contre-pied de 2023 pour arriver un an plus tard à l'idée que non seulement il n'y aura pas de hard landing, mais peut-être même pas de soft landing et que c'est no landing.
Ouais.
C'est des économistes, je l'ai cité toute la semaine, Thorsten Slug d'Apollo Global Management, mais je veux dire, c'est quand même des économistes de renom dont la voix porte, qui se permettent de faire ce genre de call aujourd'hui.
Ouais, mais faut reconnaître aux États-Unis qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter. Hein, et je pense quand même qu'on s'était précipité dans un temps court parce qu'on a eu une période pendant 3-4 ans où les décisions ont dû être prises très brutalement, très rapidement sur des tas de sujets budgétaires et de politique monétaire et qu'on a pensé que ça allait aller aussi vite dans l'autre sens. Et finalement, ça a précipité les marchés vers une euphorie très très forte l'année dernière. Couplé en plus avec une bonne santé de l'économie américaine qui s'est confirmée au fur et à mesure du temps, alors là, qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire dérailler la machine maintenant aux États-Unis ? Pas grand-chose, c'est vrai. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la partie européenne, c'est un petit peu plus compliqué. Là où j'ai des doutes, effectivement, c'est sur la capacité de la BCE à, on va dire, front-trôner. Je vais être super ambitieux.
Oui.
La Fed.
C'est-à-dire que la barre est haute.
Ouais, c'est compliqué.
Évidemment qu'on peut imaginer un scénario où la BCE baisserait ses taux avant la Fed, mais ça veut dire que ce serait peut-être un scénario déjà très dégradé avec une barre assez haute à franchir.
Exactement. Et donc ça, c'est probablement le scénario le pire pour l'Europe. Et en plus, on a perdu un moteur de croissance très fort, hein, qui est l'Allemagne. Hein. Et on voit la situation industrielle se dégrader, tout petit peu modérer ce que vous avez dit sur la santé des entreprises. En Allemagne, c'est pas ce qu'on voit. Et ça, c'est dur. C'est très dur.
Ce qui est intéressant et plutôt rassurant, c'est que hors Allemagne, tout réaccélère en Europe. Hein.
Alors, tout réaccélère.
La périphérie, le manufacturier, enfin, tout se stabilise, repart, etc.
Il n'y a qu'une chose.
Si on enlève le poids mort allemand, parce que c'est la première économie européenne, toujours, c'est la vision de la périphérie est un peu différente.
Oui, alors ça, c'est vrai. Et je couplerai ça quand même avec une petite vision sectorielle qui permet de réintroduire un peu les gros enjeux de tournant technologique qu'on est en train de prendre. Parce que vous disiez à juste titre qu'effectivement, la baisse des taux va redonner de l'air à toutes ces sociétés qui ont besoin d'investissement. Moi, je trouve qu'il y a un signal sur le marché, sur deux secteurs en particulier qui sont intenses en capital et en besoin de financement. Les énergies, de manière générale, renouvelables, mais production d'électricité. Et puis l'automobile, parce qu'il y a un tournant technologique tellement fort à prendre qui nécessite des besoins de financement colossaux. Ces deux secteurs-là, la visibilité, c'est pas avant 18 mois. Et ça, ça donne le ton un petit peu sur cet horizon de baisse des taux qui n'a pas l'air de se profiler tant que ça. Et d'ailleurs, les cours de bourse en témoignent. Ça donne toujours pas de bons résultats en termes de performance parce que les investisseurs n'y croient pas à court terme. En revanche, tous les secteurs qui sont presque agnostiques des sujets de taux, essentiellement les services, la santé, etc., eux, ils reviennent en force parce que ça y est, la logique des multiples qui se sont contractés avait permis de revenir sur des points bas très intéressants, plus une micro qui est super intéressante parce qu'on est enfin sorti du post-Covid.
Oui, c'est ça.
Bon, bah là, donc il faut quand même.
Il y a des situations qui sont nettoyées. Hein, tous les effets de up and down du Covid sont nettoyés aujourd'hui pour un certain nombre de secteurs et de groupes.
Ça, c'est sûr.
Damien, comment on gère le risque de concentration, effectivement, notamment dans un portefeuille un peu modèle? Quelle place vous réservez à la tech et donc à la tech américaine aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on met en face? Si l'idée, c'est quand même de diversifier son portefeuille, presque de couvrir même un risque éventuel sur la tech tenu par quelques valeurs encore aujourd'hui aux États-Unis.
C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce que l'idée, c'est qu'on ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, effectivement, quand il y a une hausse très concentrée des indices, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pour nous, c'est difficile. Maintenant, dans la construction de portefeuille, l'idée, c'est toujours d'avoir différents types de valeurs. Donc, il y a des valeurs de croissance, il y a des valeurs qui sont plus value, il y a des valeurs qui ont des histoires propres et différentes tailles de capi. Alors en ce moment, on a plutôt tendance à augmenter la part des petites et moyennes valeurs
parce que pour
nous, ça paraît être une opportunité.
Intéressant déjà.
Disons que les petites et moyennes valeurs, ces dernières années, ont beaucoup sous-performé. Alors, parfois pour des bonnes raisons et parfois pour des moins bonnes. Les bonnes raisons, c'est que effectivement elles ont eu moins de croissance que les grandes valeurs, hein, donc elles ont moins bien performé, alors qu'historiquement elles avaient plutôt plus de croissance que les grandes. Et la deuxième chose, c'est qu'elles sont extrêmement corrélées au taux d'intérêt.
Ah oui.
Donc quand vous avez des taux d'intérêt qui montent, vous avez deux réactions primaires, j'allais dire. Taux qui monte, ça veut dire potentiellement récession. Et donc, petite et moyenne valeur, moins diversifiée, moins internationale, donc plus sensible à une récession. Deuxième chose, souvent, petite et moyenne valeur, si elles ont des endettements qui ont des taux un peu plus élevés, parce qu'elles ont des notes de crédit un peu moins bonnes, donc elles se refinancent moins bien aussi, donc les taux qui montent, c'est aussi pénalisant. Et puis, si vous rajoutez à ça le fait que, à ce moment-là, les gens veulent vendre et qu'il n'y a pas de liquidité, vous avez la tempête parfaite qui arrive à chaque fois qu'on a des soubresauts comme cela. Et si le scénario, c'est une baisse des taux d'intérêt, on peut espérer que les petites et moyennes moyenne valeurs vont retrouver de l'intérêt parce que, un, il y aura une amélioration du scénario économique en Europe, on va dire, et deux, une amélioration du scénario financier. C'est vrai pour les petites et moyennes valeurs, mais l'idée générale quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de titres en bourse qui sont très, très délaissés, et pas forcément que des petites et des moyennes. Vous parliez tout à l'heure du secteur automobile. Le secteur automobile, il a ses défis, mais il a aussi, au niveau valo et au niveau bilanciel, des vraies, vraies forces. La plupart des constructeurs, ils sont gorgés de cash.
Oui.
Même un Renault qui fait rien en bourse, il a 6 milliards de cash pour 11 milliards de KPI. Donc, il y a un moment...
Stellantis fait 3 milliards de rachats d'actions. Hein.
Non, mais alors Stellantis a mieux fonctionné, bourse.
Oui, je suis d'accord, mais on vous aurait dit il y a 2 ans que Stellantis ferait 3 milliards de rachats d'actions en 24.
Donc,
c'était pas évident non plus. Hein.
Oui, donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, le marché ne voit qu'un type de valeur. Alors en Europe, c'est les fameuses techno.
Aux États-Unis, c'est
techno. En Europe, c'est...
Nous, c'est un peu plus diversifié, les granolas ou les Super 7, c'est un peu plus diversifié,
mais ça reste quand même toujours les très grosses caps, c'est Novo Nordisk, oui. ASML, Schneider, L'Oréal.
Oui, oui.
Et même
l'emprise de ces valeurs-là sur les indices est encore plus forte qu'aux US. Le top 10...
Oui.
Les plus grosses capi US, ça doit être, je ne sais plus de mémoire, je crois, c'est jusqu'à 30% de l'indice. Je parle du poids. Hein.
Oui.
En Europe, le top 10, c'est plus de 50% de nos indices. Hein. Le top 10 sur le CAC 40, c'est plus de 50% du CAC en termes de poids de capitalisation. Hein.
Oui, et je ferai deux dernières remarques. C'est que ces valeurs-là qu'on vient de mentionner, les Air Liquide, Essilor, Schneider et compagnie, elles sont toutes aux multiples les plus élevés de leur histoire.
Ah oui.
C'est-à-dire que c'est... Alors, évidemment, elles publient très bons résultats,
ouais.
Mais elles sont toutes aux multiples les plus élevés de leur histoire.
C'est vrai.
Donc, vous dites, ces groupes de méga-cap, là, ils sont quand même pricés pour la perfection aujourd'hui, quoi.
Ben, je sais pas si c'est un phénomène de gestion passive ou quoi, mais en tout cas, ça monte sur du momentum, ça monte pas sur de la valo. Et moi, j'ai la faiblesse de penser, et j'espère que ça marche encore, parce qu'historiquement, ça marchait, mais là, ça prend un peu plus de temps, c'est qu'à un moment ou un autre, on retrouve l'équilibre. Les valeurs en retard rattrapent et les valeurs trop chères perdent un peu en relatif. Et c'est vrai que les cycles boursiers, souvent, c'est des oscillations autour d'une moyenne. Là, on est dans une oscillation extrême sur les valeurs chères.
J'entends.
On peut espérer que si le scénario de taux se modifie, les valeurs moins chères rattraperont une partie de leur retard. Et ça concerne les petites, mais ça concerne les grosses aussi. Ouais. Parce que les grosses qui traînent, souvent, c'est des valeurs avec beaucoup d'endettement, d'endettement, plus de capitaux. Et elles bénéficieront de la baisse des taux. Donc.
Mais ce qui est intéressant, alors on parlera nous du secteur bancaire spécifiquement dans le dernier quart d'heure, mais il y a quand même pas mal de parallèles avec le secteur automobile pour les grands assembleurs, j'entends. C'est que Stellantis, en termes de prix, a très bien performé en bourse. En termes de ratio de valorisation, le marché n'achète aucun changement de statut. Oui. C'est-à-dire que ça reste la valeur la moins chère du CAC, je ne sais pas combien, ou Renault, c'est le même exemple. Il n'y a pas de changement de statut et de re-rating de la part du marché sur ces valeurs-là. Quoi.
Non.
Et ça reste des boîtes qui se prêtent à 5 de PE.
Il y en a plein. Regardez Vallourec. Vallourec, c'est une boîte qui, depuis 2 ans, a complètement changé, qui n'aura plus de dette dans 1 an.
Il n'y a pas de reconnaissance d'un nouveau statut.
Ça monte un petit peu, mais on reste à des niveaux de valo très faibles.
Ouais, je pense que sur ces cas-là, ce n'est pas tellement le nettoyage de la dette le sujet, c'est la confiance dans ce nouveau marché qui est quand même difficile à mesurer. L'environnement compétitif qui est difficile à mesurer, le stress sur les emplois qui sont difficiles à trouver, les compétences.
Mais il y a un grand flou sur ce que sera le secteur automobile demain. Il n'y a pas de doute. Hein.
Les Américains, les Asiatiques, les Européens, c'est pas facile. Et je pense que c'est ça la défiance.
Et on voit l'activisme des patrons de ces grands groupes. Il faut faire du M&A, nous dit Tavares, des méos
nous dit qu'il faut plateformiser toute l'Europe, il faut qu'on se mette tous ensemble pour produire notre petit véhicule électrique européen compétitif. Enfin, voilà, on sent qu'il y a une activité, un activisme intense.
Ouais, et en témoigne d'ailleurs le fait que Renault, finalement, ne fait pas son IPO.
Ah oui.
Ça prouve quand même que le marché n'est pas mature. Ah. Mais moi, je pense que c'est sain. Ça veut dire qu'en fait,
c'est le marché qui n'est pas mature.
Ben oui, parce que là, il y a eu quand même 2-3 ans où beaucoup se sont fait rincer par les IPO. Alors là, je ne parle pas d'IPO du type de celle de Renault, hein. Je parle vraiment de concept stock qui sont rentrés en bourse parce qu'il y avait une liquidité flamboyante.
Pas que des concept stock, EuroAPI qui est un spin-off de Sanofi, qui divise par deux tous les 3 mois à l'occasion de ses publications. Ben non, mais quand même,
les résultats sont
catastrophiques. Oui, bien sûr, au point même que Sanofi est en train de couper ses commandes chez EuroAPI. Non, mais bon.
Non, mais d'ailleurs,
il n'y a pas que des concept stocks qui ont déçu.
Non, je faisais le lien avec les concept stocks sur la partie technologie et qui a fait peur parce qu'en fait, on promet des chiffres d'affaires, on promet un marché final sur lequel on a des taux de croissance hallucinants et en fin de compte, on se rend compte 3 ans après qu'il ne se passe rien. Donc ça, cette prudence-là, je l'entends. Moi, je crois sincèrement qu'on est sur une phase quand même où le ralentissement évoqué, la pause sur les marchés, elle sera... saine, louable, et la micro, dont je dis depuis déjà 6-8 mois, je pense, sur ce plateau, entre autres, qu'elle va revenir quand même, je l'espère, au devant de la scène. Là, on parle de ces méga-caps qui obstruent complètement la visibilité sur les vraies performances des indices, parce que si on les enlève au-delà du poids qu'elles représentent, il faut aussi retraiter la performance. Peut-être redonner un peu de couleur aux gestions de conviction et de rappeler que, quelque part, on peut se diversifier maintenant avec la gestion de conviction qui va jouer d'autres thèmes que ceux qui sont présents massivement dans les indices.
Après, si on enlève ces méga caps des résultats, je veux dire, c'est pareil, la performance de ces méga caps, elle est aussi liée à des performances opérationnelles qui sont spectaculaires. Si vous enlevez de la séquence de résultats du S&P 500 le top 10, c'est plus la même croissance bénéficiaire. Hein. C'est même plus de croissance bénéficiaire pour le reste du S&P 500 en agrégé.
Mais les valeurs européennes dont on parlait, elles ont des super belles performances financières, mais elles se renchérissent quand même. Ouais. Donc c'est quand même la somme des deux.
Ouais. IA et ESG, Léa, comment ça résonne? Enfin, quelles sont les dimensions d'analyse de l'ESG qui sont pertinentes quand on réfléchit aux questions que soulève l'intelligence artificielle?
Je pense que l'intelligence artificielle, c'est une révolution industrielle en tant que telle. Hein, et donc, ça va être difficile de vraiment borner un petit peu tous les enjeux rapidement. Et même d'ailleurs d'être sûr d'anticiper tous les enjeux. Il y a un enjeu d'abord social, très fort, grosses anticipations dans certains secteurs que peuvent être notamment les médias par exemple, c'est pas vous que je cible.
Ah bah mais moi je suis ravi, j'appelle tous les robots. Non mais prenez ma place, pas de problème. Non mais sérieusement.
Non mais les médias effectivement et en fait le service d'une manière générale et tout ce qui fait compiler de la data assez facilement va être révolutionné très très vite et donc ça veut dire qu'il va falloir envisager dans les business models de nos entreprises un disrupteur. Mais qui ne va pas être gratuit. Et ça, c'est peut-être l'illusion qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on remplace les hommes par les machines et en fait, ça coûte moins cher. Ce n'est pas si vrai parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce que disent maintenant les entreprises qui ont commencé à parler de plans de licenciement sur ces sujets, s'aperçoivent qu'en fait, ça ne marche pas très bien. Donc ça, c'est le fameux temps long qu'il va falloir se donner. Et puis le dernier, sujet qui va m'intéresser dans l'ESG, c'est quand même la propriété des données.
Ah oui.
Parce qu'il va falloir quand même régler ce problème de la propriété des données un moment ou un autre pour que le business model soit vu dans sa globalité. Donc ça veut dire qu'il y a un prix. Donc on revient à la rentabilité de l'IA. Il y a des développements qui sont coûteux. Il y a ensuite effectivement une profondeur à atteindre et qui prend du temps. Et il y a des données qui sont la matière première entrante qu'il va falloir aussi payer à un moment. C'est pas encore acté ce business model-là.
Moi, un truc qui m'a frappé là, sur le facteur IA... Je sors de Nvidia et des puces, hein, bien sûr, mais c'est que le marché peut trouver que, chez un publiciste, par exemple, le levier de l'IA va être quelque chose de très positif, et chez un tel performance, ça va être une tempête pour le groupe. On est dans le secteur des services, c'est pas la même activité, ces deux boîtes font pas la même chose, mais je trouve que le marché a quand même des vues assez précises, pour certains business, en tout cas, de ce que va ou non apporter l'IA et notamment l'IA générative.
Le problème, c'est que là, on est à nouveau en face de le marché se fait une idée et après c'est très très difficile de le faire changer d'avis.
Ouais.
En l'occurrence sur Téléperformance, bon, il se trouve qu'ils sont rentrés, j'allais dire, dans la médiatisation de l'IA en position de faiblesse parce qu'ils avaient déjà d'autres problèmes par ailleurs.
Oui.
Et quand l'IA a commencé à devenir un vrai sujet, c'est venu se rajouter au-dessus de...
C'est vrai. De le marché avait déjà une opinion négative sur Téléperformance.
Exactement. Donc à partir de là, c'est devenu double négatif et double punition. Maintenant, pareil, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est très très difficile de savoir le pour et le contre, où est-ce que ça va s'équilibrer, un Téléperformance. Il va y avoir des améliorations de productivité parce que eux, pour le coup, ils vont pouvoir remplacer certains coûts salariaux par l'automatisation. Maintenant, quand on voit la réaction du cours la semaine dernière ou il y a 10 jours aux déclarations de la tech finlandaise, c'est absurde, quoi. On est en train de parler d'une société qui est toute petite, qui a des activités très très réduites sur une classe de questions, j'allais dire, et une classe de relations clients. Et on fait perdre 20% à Téléperformance. C'est un peu absurde.
Oui, c'est une extrapolation exubérante, je suis d'accord.
Mais en fait, le problème, si on va un peu plus loin, c'est que sur les mid et les small cap, de toute façon, aujourd'hui, le marché, il n'est pas à la main des long only. Il est à la main de ceux qui shortent les mêmes tics tout le temps, quel que soit ce qu'ils annoncent. Donc, c'est des cibles faciles parce que ce n'est pas très liquide. Et c'est très difficile pour les sociétés qui sont les cibles des fonds spéculatifs de sortir de leur état de faiblesse par rapport à ces acteurs-là. Ouais. Sachant que si on regarde en plus des hedge funds, les histoires de gestion passive, quand on regarde les mid-cap, à la clôture, ils se traitent 70% du volume.
Oui.
Donc les intermédiaires financiers,
quoi.
Ouais, les intermédiaires financiers le disent assez clairement. Je veux dire, les long only, ils sont assez peu actifs quand même sur les marchés depuis maintenant pas mal de mois.
Il y a un peu de new cash qui arrive quand même.
J'allais dire, il y a quand même des retraits, donc c'est difficile de renforcer ses convictions. Mais ça rend justement toute une classe de tout un secteur de et tout un pan de la bourse encore plus vulnérable aux attaques par des fonds spéculatifs.
Moi, sur l'IA, je voulais juste compléter un point qui me semble important, c'est la réaction boursière dont on parle, elle en témoigne. C'est, en fait, il faut voir l'IA. Est-ce que l'IA est-elle disruptive pour les barrières à l'entrée que la société a mises en place depuis des années ou pas? C'est soit un moteur de performance supplémentaire qui va effectivement faire des gains de productivité, soit c'est un remplacement qui permettra à tout nouvel entrant de rentrer. Et je pense que chez Téléperformance, c'est peut-être aussi ça le sujet.
C'est que surtout, moi, ce que j'ai compris de la logique de marché, c'est Klarna dit, si on avait décidé d'externaliser notre relation client, très bien. Aujourd'hui, on est capable de le faire avec l'équivalent de 700 postes temps plein et un algo nourri par OpenAI et nourri aussi par les données que nous envoient nos clients. C'est quand même ça qui est important.
Bien sûr. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tout va se regarder à travers ces fameuses barrières à l'entrée. Ouais. J'ai souvenir d'une grande entreprise pharmaceutique européenne dont je ne donne pas le nom parce que je ne veux pas me tromper de nom, qui avait dit il y a déjà 10-15 ans qu'ils estimaient à horizon 2020-2025, donc on y est, à un tiers de leur chiffre d'affaires sur toute la partie justement. Pas intelligence artificielle, c'est pas comme ça qu'ils le disaient, mais en tout cas la partie technologique de leurs données, c'est-à-dire réunir les diagnostics et les profils des patients et les pathologies, et essayer de conjuguer tout ça, et qui pensaient que leur chiffre d'affaires, pour une grosse partie, viendrait de là. Donc ça peut être aussi, pour d'autres activités, un moteur de performance supplémentaire, d'innovation, etc. Ça dépend de quoi on parle.
Merci à vous deux. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, de nous apporter votre éclairage et votre expertise sur ces sujets. On aura parlé d'ISR, d'ESG, d'intelligence artificielle, évidemment, avec Léa Dunant-Châtelet, DNCA et Damien Charlet, Mandarine Gestion.